France Culture.
Et tout de suite, le journal de la rédaction. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Coup de théâtre à l'Assemblée, le Rassemblement National a réussi à faire voter un de ses textes présentés dans le cadre de la niche parlementaire du RN, une première. Ce texte qui dénonce les accords franco-algériens de 1968 a été voté sur le fil avec l'appui des groupes Les Républicains et Horizon. Nous ferons le point sur l'enquête autour du vol de bijoux au Louvre. 5 nouveaux suspects interpellés, l'un d'eux soupçonné de faire partie des cambrioleurs. Beaucoup se sont frottés les yeux ce matin en découvrant les chiffres de la croissance française au troisième trimestre, meilleur qu'attendu, nous verrons pourquoi. Quel rôle le président chinois peut-il jouer dans le conflit en Ukraine? Il en a été question lors de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Corée. Enfin, à quelques jours de l'ouverture de la COP30 au Brésil, comment changer de discours pour rallier de nouveaux publics à la cause climatique? Notre invité dans le journal Dans ce journal sera Frédéric Gruet, auteur de « Et si ce n'était pas le climat, la biodiversité, le combat pour changer le monde ». Il est également responsable de la commission pour la biodiversité du parti Les Écologistes. Et on débute ce journal avec cette victoire plus que symbolique pour le Rassemblement National à l'Assemblée. Le groupe de Marine Le Pen tient sa niche parlementaire aujourd'hui et décide donc des textes à l'ordre du jour dans l'hémicycle. Et il a réussi ce matin à faire voter le premier de ces textes, une proposition de résolution visant à dénoncer les accords de 1968 avec l'Algérie. Ils offrent aux Algériens des clauses spécifiques en matière d'immigration et de séjour en France. Alors d'ordinaire, le RN tente via ces textes et sa niche de piéger ses adversaires politiques, sauf que cette fois, Rosalie Lafarge, eh bien ça passe.
Le RN voulait placer la droite et les macronistes face à un dilemme, soutenir l'extrême droite ou se dédire. La chef de file Marine Le Pen exulte à la sortie de l'hémicycle.
C'est évidemment une journée qu'on peut qualifier d'historique pour le Rassemblement National, puisqu'il vient de faire voter pour la première fois dans une de ses niches un texte extrêmement important pour nous, parce qu'il nous apparaît être important pour notre pays.
Une première à une voix près, 185 pour, 184 contre. L'opposition du gouvernement portée à la tribune par le ministre Laurent Panifous n'aura pas suffi.
Aux mots qui choquent sans aucune efficacité, le gouvernement préfère les actes aux résultats tangibles. Il privilégie donc la voie de la renégociation dans le cadre d'un dialogue exigeant avec l'Algérie.
Le RN vote en bloc, reçoit l'appui attendu de ses alliés de l'UDR, d'Éric Ciotti, mais aussi de la moitié du groupe Horizon, d'Édouard Philippe, 17 députés pour, la moitié des LR de Laurent Wauquiez également, 26 députés pour. De quoi sidérer la gauche, la présidente du groupe écologiste lance un avis de recherche.
Où est Gabriel Attal? Où sont les députés macronistes?
Cyrielle Châtelain.
Ce qu'on vient vivre dans l'hémicycle, c'est inacceptable, c'est insupportable. L'absence des macronistes a donné une victoire au Rassemblement National sur un texte raciste.
Il a manqué des voix dans tous les groupes, y compris à gauche, mais un tiers seulement du groupe macroniste était présent. On aurait pu être plus nombreux au Modem aussi, admet le centriste Bruno Fuchs, plus agacé quand même par les soutiens d'Édouard Philippe.
Et c'est coupable, on ne vote pas avec le RN sur quelque chose d'aussi néfaste à l'intérêt de la France.
Un texte non contraignant, mais voté ce matin. Pari réussi pour le RN qui n'exclut pas d'autres victoires dans la journée et pourquoi pas sur le texte actuellement examiné. Il vise à rétablir le délit de séjour irrégulier.
Rosalie Lafarge, l'Assemblée où l'examen du budget et le volet recettes du projet de loi de finances est en pause aujourd'hui. Les débats reprendront demain. Il y sera notamment question de la très commentée taxe Zucman sur le patrimoine des grandes fortunes. L'enquête sur le vol historique au Louvre progresse, mais toujours aucune trace des trésors volés dans le célèbre musée parisien. 5 nouveaux suspects ont été interpellés. La procureure de Paris l'a annoncé ce matin, alors que les deux premiers arrêtés il y a quelques jours ont été mises en examen hier soir. Mathilde Cariou, bonjour.
Bonjour à tous.
Et parmi ces 5 nouveaux suspects, l'un des cambrioleurs présumés présents lors du casse.
Oui, en tout cas, c'était l'un des objectifs des enquêteurs, indique ce matin la procureure de Paris. Ils étaient 4 lors du cambriolage. Les deux hommes mis en examen hier ont partiellement reconnu les faits, mais ce n'est pas leur témoignage qui a conduit à ces nouvelles arrestations. Ce qui a permis de les identifier, ce sont notamment les recherches ADN, 150 relevés à la fois sur les vitrine du Louvre et sur les objets abandonnés dans la fuite, en l'occurrence l'un des scooters utilisés par les voleurs pour s'enfuir. Les 4 autres personnes interpellées n'ont a priori pas participé au cambriolage mais pourront, toujours selon Lorbecchio, nous renseigner sur le déroulé de l'opération. Reste la question des bijoux. Où sont-ils? Hier, lors du point sur l'enquête, la procureure lançait une sorte d'appel. Il est encore temps de les rendre. Ce matin sur RTL, elle précise que les nouvelles arrestations n'ont pas permis de les retrouver. trouvé, mais que tous les marchés parallèles sont scrutés par les enquêteurs de l'OCBC, l'Office de lutte contre le trafic des biens culturels. La justice saura tenir compte, conclut-elle, de l'absence de préjudice et de toute potentielle coopération.
Mathilde Cariou, merci. Nous évoquions le budget il y a un instant et c'est une nouvelle inattendue sur le front économique. Malgré l'instabilité politique et les discours alarmants du patronat et des chefs d'entreprise, la croissance se maintient au troisième trimestre. Le produit intérieur brut progresse de 0,5%, meilleure performance trimestrielle depuis plus de 2 ans. Remarquable, salue le ministre de l'économie, Roland Lescure. Valentin Gris, bonjour.
Bonjour Camille.
Surprise d'autant plus grande que ce sont les investissements d'entreprises qui tirent ces chiffres vers le haut.
Et oui, ils rebondissent de 0,4% après avoir stagné le trimestre passé, alors que toutes les prévisions étaient dans le rouge. Mais des signaux positifs émergent, la bonne tenue des investissements dans les biens d'équipement, dans les produits manufacturés, dans le numérique qui surtout s'en sort très bien, de bon augure dans la course à l'intelligence artificielle. Surtout, ces investissements suivent un autre moteur de la croissance, les exportations, plus 2,2% dans des secteurs clés comme l'armement, des armes envoyées vers l'Allemagne par exemple, où les programmes publics d'armement ont été renforcés, ou bien l'aéronautique, enfin débarrassée de pénurie de pièces et de main-d'œuvre et qui reprend des couleurs. Des points noirs subsistent, évidemment, l'agroalimentaire décroche, touché par les droits de douane sur les vins et spiritueux. Sur le marché intérieur, la construction et le logement s'enlisent dans la crise, moins 0,1% alors que les chiffres étaient déjà mauvais. Surtout, la consommation ne repart pas, plus 0,1% à peine. Les Français épargnent un cinquième de leurs revenus, un niveau record, alors même que l'inflation est revenue à des niveaux normaux, le signe d'une panne de confiance et de l'instabilité politique qui pèse peut-être. La France s'est assurée 0,8 points de croissance cette année, mais sans une reprise de la consommation qui représente la moitié de notre PIB, il sera difficile de déjouer une fois de plus des prévisions moroses pour la fin d'année.
Et alors que la croissance surprend, la dynamique industrielle s'enlise. Selon les derniers chiffres de Bercy, au premier trimestre, il y a eu 2 fois plus de fermetures que d'ouvertures d'usines en France, bien loin du ratio d'il y a un an. Il était alors légèrement positif. Une désindustrialisation qui s'illustre par de nombreux plans sociaux sur 444 plans recensés par la CGT depuis juillet 2024. Les 3/4 environ concernent des sites industriels, a insisté ce matin la secrétaire générale du syndicat Sophie Binet, qui doit rencontrer aujourd'hui le ministre de l'Industrie. Selon la CGT, plus de 300 000 emplois sont menacés par tous ces plans sociaux. Une accalmie dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump et Xi Jinping ont trouvé un terrain d'entente en Corée pour apaiser leur conflit commercial avec un accord sur les terres rares, le soja ou encore certains droits de douane. Ils ont aussi parlé de la guerre en Ukraine. Le président américain assure qu'ils vont travailler ensemble sur le sujet car il compte sur Pékin, très proche de Vladimir Poutine, pour l'aider dans ses efforts de paix. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes correspondant de France Culture en Chine. Vous avez suivi ce sommet ce matin en Corée du Sud. Est-ce que Donald Trump peut vraiment compter sur Xi Jinping pour arrêter la guerre en Ukraine ?
Alors en tout cas, Donald Trump a souhaité faire de l'Ukraine un sujet majeur ce matin lors de ce sommet de Busan qui était surtout pourtant centré sur les questions commerciales. Nous en avons parlé longtemps, a dit le président américain, et nous allons maintenant travailler ensemble pour voir si nous pouvons obtenir quelque chose. Donald Trump mise évidemment sur la relation privilégiée que Xi Jinping entretient avec Vladimir Poutine. On dit souvent que le président chinois est le seul à pouvoir avoir une influence sur le chef du Kremlin, sur la question ukrainienne. Mais jusqu'ici, Xi Jinping est resté totalement insensible à absolument toutes les demandes similaires formulées par les dirigeants occidentaux, d'Emmanuel Macron à Joe Biden, en passant par la quasi-totalité des leaders européens. Alors, est-ce que ce sera différent avec Donald Trump, qui considère, on l'a entendu ce matin, Xi Jinping comme son ami? Eh bien, ce n'est pas si sûr. La Chine, qui n'a jamais dénoncé l'invasion de l'Ukraine, ne montre aucun signe de changement. La guerre et les sanctions internationales contre Moscou permettent aux Chinois de faire des affaires avec la Russie, qui contribue au bon fonctionnement de l'économie chinoise. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si dans ses communiqués après le sommet de Busan. La Chine n'a pas fait mention de discussion sur l'Ukraine, manière d'ignorer certainement les demandes de Donald Trump.
Sébastien Berriot, merci. Correspondant de France Culture en Chine, cette annonce a, elle, tout l'air d'une déclaration de force vis-à-vis de Moscou. Donald Trump a ordonné, en marge de cette rencontre avec le président chinois, la reprise par les États-Unis d'essais d'armes nucléaires. Interrompu depuis plus de 30 ans, cela intervient après des annonces de Vladimir Poutine sur le développement de nouvelles capacités atomiques par la Russie. Ce midi, le Kremlin tempère et assure qu'il ne s'agit pas d'essais nucléaires. Les Pays-Bas entrent dans une longue période de négociations politiques après les législatives d'hier qui ont placé le parti centriste pro-européen au coude à coude avec l'extrême droite de Geert Wilders, les centristes premiers ex aequo, mais avec de grandes chances de pouvoir constituer une coalition avec des partis alliés. Et c'est un jeune leader de 38 ans, Rob Jetten, qui pourrait donc, au terme de ses tractations à venir, devenir le prochain Premier ministre du pays. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyé spécial à Amsterdam. Fabien, Rob Jetten est déjà, malgré son jeune âge, une figure politique bien connue aux Pays-Bas.
Oui, déjà ancien ministre du climat et de l'énergie dans un précédent gouvernement de coalition, longtemps dépeint comme un bon élève qui sait tout sur tout, Rob Jetten a su séduire les électeurs en se montrant plus clair et, veut-il croire, plus sincère dans son expression, engagé pour le climat et l'égalité des droits. Il vit officiellement en couple avec un autre homme et surtout sur le plan politique, il est celui qui a su à plusieurs reprises renvoyer le leader d'extrême droite, Geert Wilders, dans ses cordes sur son sujet favori, l'immigration. Comme lors de ce débat organisé lundi dernier par les médias néerlandais.
La plupart des Néerlandais savent que l'économie a besoin de talents extérieurs. Ils veulent se montrer attentifs aux besoins des personnes qui fuient la guerre et qu'il faut accueillir. Mais il faut également être plus strict envers ceux qui abusent du système. Soit nous continuons de vous écouter déverser vos discours haineux, demain et pendant encore 20 ans, soit nous choisissons de nous mettre au travail avec tous ceux qui veulent aller de l'avant et régler les problèmes.
Une approche pragmatique, promue par un leader politique qui promet la stabilité s'il parvient à former une coalition avec les autres partis centristes pro-européens.
Fabien Cazot depuis Amsterdam. Retour à Paris où il sera question cet après-midi de l'une des pires crises humanitaires au monde. Elle se déroule depuis plusieurs années en République démocratique du Congo, provoquée par un conflit vieux de 30 ans. Paris où se tient donc une conférence de soutien à la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. À cette occasion, une dizaine d'ONG appellent la communauté internationale à agir face à cette crise humanitaire qui touche plus de 20 millions de personnes. Myriam Roch-Massarin.
Les humanitaires sont confrontés à un problème principal, celui de l'accès au terrain, notamment à l'est du pays où se concentrent les conflits armés, explique Luc Lamprière, représentant du Forum des ONG internationales en RDC.
Aujourd'hui, l'espace aérien est bloqué, les avions ne peuvent pas voler tout simplement, il y a trop de travailleurs humanitaires qui sont bloqués à la frontière, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'ils n'ont pas le bon papier. On nous demande aujourd'hui en tant qu'humanitaires de plus en plus de paperasses, de papiers et de documents qui en réalité rendent l'aide humanitaire encore plus compliquée, encore plus difficile.
Un accès humanitaire d'autant plus important que la crise s'empire. Le docteur Déjoseph Kakisingui est président du réseau national des ONG congolaises.
Le système de santé est au bord d'effondrement. Et c'est donc une véritable bombe médicale et biologique en retardement. Les stocks de médicaments stratégiques et essentiels sont épuisés, notamment les antipalidéens, les antituberculeux, les antirétroviraux, l'insuline, l'ocytocine, et ne sont plus accessibles aux communautés qui en ont besoin.
À cela s'ajoute la famine, ce qui pousse les Congolais à fuir. Aujourd'hui, les ONG comptent plus de 6 millions de déplacés en RDC. Pour pouvoir répondre à la crise, les humanitaires demandent plus d'argent. Sur les 2,5 milliards promis par la communauté internationale au début de l'année, seuls 400 millions ont été reçus.
À ce stade, aucun Français ne fait partie des victimes de l'ouragan Mélissa. Déclaration ce matin de la ministre en charge de la francophonie. La tempête a provoqué la mort d'au moins 30 personnes après son passage en Jamaïque, en République dominicaine ou encore à Cuba. Cet ouragan a été rendu 4 fois plus probable en raison du changement climatique causé par l'homme. C'est la conclusion d'une étude publiée hier et menée par des scientifiques de l'Imperial College de Londres. Le climat et les alertes dont on parlera la semaine prochaine à l'ouverture de la COP30 prévue à Belém au Brésil. Et nous parlons ce midi de la question du discours autour de ces questions climatiques avec vous, Frédéric Gruet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur du livre « Et si ce n'était pas le climat, la biodiversité, le combat pour changer le monde ». Vous êtes aussi responsable de la commission pour la biodiversité du parti Les Écologistes. Et avec nous en studio pour vous interroger, Véronique Robérotte, spécialiste des questions environnementales pour la rédaction de France Culture. Bonjour Véronique.
Bonjour Camille. Bonjour Frédéric Gruet. Et si ce n'était pas le climat, point d'interrogation. Autrement dit, si pour rallier, hein, c'est votre discours, pour rallier un nouveau récit, un nouveau public aux idées écologistes, il ne fallait pas plutôt trouver un nouveau récit politique un peu moins déprimant que le climat, on va dire.
Oui, tout à fait. Je pense que le récit climatique a deux grands désavantages. Le premier, c'est qu'il est porteur parfois d'injustice. On dit aux gens de ne pas prendre leur voiture alors que des personnes un peu plus, on va dire, un peu plus riches prennent des jets privés. Donc parfois, c'est un petit peu limité. Et deuxièmement, au niveau politique, c'est moins proche des gens, c'est moins proche de ce qu'ils peuvent faire, c'est moins proche de sauver, par exemple, une espèce qu'on a connue dans son enfance. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que cette nécessité politique se double d'une nécessité technique. Et quand la technique rencontre le politique, c'est assez rare. Je prends comme exemple la gestion forestière française. Aujourd'hui, la gestion forestière française se base sur maximiser le potentiel puits de carbone, donc le potentiel lutte contre le changement climatique, de la forêt française. Quel est le résultat? Le résultat, c'est qu'on a des études qui nous montrent que la forêt française sera probablement émettrice nette de carbone en 2030. Parce que les usines à bois que nous avons créées au lieu des forêts, elles peuvent émettre beaucoup de carbone car elles ont par exemple augmenté la mortalité des arbres. En 15 ans, la mortalité des arbres a été multipliée par 2 dans nos forêts. Et cet exemple peut se généraliser. Donc la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes écosystémiques, donc qui est l'IPBES, a sorti en décembre 2024, donc ce qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, a sorti en décembre 2024 un rapport nommé Rapport Nexus qui dit exactement ceci. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec des solutions un petit peu trop précises sur une des crises écologiques, mais il faut des solutions qui embrassent l'ensemble de la crise écologique. L'ensemble des crises écologiques.
Alors, vous avez parlé évidemment biodiversité, parce que au cœur de votre nouveau récit politique, effectivement, vous mettez la biodiversité, qui est pour l'instant un peu reléguée au second plan, au premier plan, et vous dites elle est susceptible de nous faire gagner des parts de marché, donc à l'écologie, parce que c'est à la fois, vous l'avez dit, une solution politique et technique.
C'est à la fois une solution politique et technique. Et je donne un exemple. On parle beaucoup de recul de l'acceptation de l'écologie par les citoyens. Pourtant, il y a une étude qui vient de sortir qui montre que dans 8 pays différents, 80% de la population est d'accord avec un objectif simple qui est de protéger 30% des aires maritimes et 30% des aires terrestres, contre 18 et 7% aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en réalité, les citoyens, quand on leur propose un récit qui est proche d'eux, ils adhèrent à l'écologie. Et ce n'est pas dire que le changement climatique n'est pas important. Le changement climatique, lutter contre le changement climatique est essentiel. Ce qui est la thèse, c'est plutôt que pour lutter contre le changement climatique, il ne faut pas le faire peut-être en ne pensant qu'au changement climatique. Sinon, il y a des effets néfastes sur ce même changement climatique et ce n'est pas forcément porteur politiquement.
Et si on emploie donc la biodiversité, vous dites les solutions, elles sont là, on redonne de l'espoir, c'est ça votre
C'est exactement ça, c'est pour redonner de l'espoir aux citoyens, redonner un peu de sentiment que l'écologie n'est pas punitive, que l'écologie est une forme de justice. C'est qu'on ne va pas, vous condamner parce que vous allez au travail en voiture, dans votre voiture, pendant que des gens un peu plus riches vont prendre le jet privé tous les jours, pendant que des équipes de sport vont partout dans le monde en avion. Et c'est sur ce sentiment d'injustice sur lequel la biodiversité met un terme. Parce que la biodiversité, c'est par définition locale et c'est beaucoup moins porteur de leçons négatives à ce niveau-là.
Justement, vous pensez global et vous agissez local, en bonne écologiste d'ailleurs.
Exactement, en bonne tradition de la pensée écologiste.
Allez-y.
En fait, la pensée écologiste, effectivement, est un certain moyen d'arriver à faire reculer certaines idées. Puisque si on réfléchit à la question, aujourd'hui, le problème de l'État français, c'est un problème que l'État français ne fonctionne pas.
Bien. Et
pas bien, il fonctionne même assez mal. Mais si on part du principe que l'on se concentre sur le local, sur la biodiversité, en fait, on résoudra pas mal de ces problèmes. Tant indirectement, au niveau santé, au niveau école, au niveau éducation. Et donc, en pensant biodiversité, en pensant décentralisation, on arrive à résoudre quelques problèmes de l'État français.
Merci Frédéric Gruet. Je rappelle, vous êtes responsable de la commission pour la biodiversité du parti Les Écologistes, auteur du livre « Et si ce n'était pas le climat, la biodiversité, le combat pour changer le monde ». Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Véronique Rebérotte de la rédaction de France Culture. Un mot du temps pour ce jeudi avec des éclaircies bien présentes cet après-midi sur un bon quart nord-ouest. Le ciel sera plus nuageux et la pluie s'invite en Bretagne. Le temps sera surtout agité sur la Corse. On attend 12 degrés à Paris et Metz. 14 à Bourges, 16 à Montélimar, 20 degrés à Perpignan, Marseille et Ajaccio. Ce journal a été réalisé avec Axel Dubois, Jérémy Kaufmann à la technique.